Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans De Grand Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Nicolas Ignatieff. Réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Ariane Herbé. C'était au début de ce mois, le 2 avril, dans le nord-est du Kenya. Un massacre dans l'enceinte de l'université de Garissa, perpétré par le groupe islamiste somalien Al-Shabaab. Les victimes, des étudiants, 148 au total, tués non pas au hasard, mais parce que de confession chrétienne. Cette attaque ciblée, au nom de la religion, vient aggraver le bilan des persécutions dont sont victimes les chrétiens dans certains pays, ceux d'Orient notamment. En Irak, par exemple, on estime que la communauté chrétienne a diminué d'un million en moins de 30 ans. 300 000 autres auraient fui la Syrie depuis le début de la guerre civile. Alors est-ce parce que le phénomène s'aggrave à la faveur de la montée en puissance d'organisations telles que l'État islamique ? Toujours est-il qu'on assiste aujourd'hui à l'affirmation d'une prise de conscience politique sur ce sujet. Ainsi, l'initiative de la France à l'ONU, à la fin du mois dernier, le 27 mars, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunissait pour évoquer le sort des minorités religieuses au Moyen-Orient. Laurent Fabius allant même jusqu'à parler de génocide culturel pour qualifier le projet à l'œuvre dans cette partie du monde. Les chrétiens ne sont pas de bonnes victimes, ils n'ont pas la cote, écrivait il y a quelques jours Pascal Bruckner dans le Figaro. Mais n'est-ce pas justement en train de changer ? Existe-t-il une conscience chrétienne mondiale ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir François Mabille. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lille, membre du groupe Société, Religion, Laïcité au CNRS. Vous avez publié l'an dernier aux éditions du Cygne « La longue tradition du catholicisme, gouvernementalité et influence ». Pour discuter avec vous ce soir, Jean-Pierre Denis, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction du magazine La Vie, qui est un hebdomadaire, qui sort chaque jeudi. La une de demain ?
Un numéro spécial sur les Arméniens, le génocide, bien sûr, la mémoire du génocide, la négation du génocide. Et c'est encore une histoire, évidemment, de persécution contre les chrétiens. Mais au-delà, un numéro entièrement consacré à l'Arménie, y compris la cuisine, le cinéma, la culture.
Ouais, c'est une histoire qui nous est racontée d'ailleurs en ce moment sur France Culture, dans la fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin. Je précise, Jean-Pierre Denis, que vous êtes par ailleurs poète. « Me voici forêt », c'est le titre de votre dernier recueil, l'an dernier, aux éditions du Passeur. Et puis notre troisième invité se trouve en duplex des studios de Radio France à Nice. Il s'agit de Nicole Lemaître. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes historienne, professeure des universités à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Le dernier ouvrage que vous avez dirigé, en tout cas dont vous avez réuni les textes et qui a été publié par le Collège des Bernardins, c'est « La chrétienté dans l'histoire, une notion mouvante ». Alors avant d'essayer d'analyser ce qui se passe et ce qui relève peut-être d'une forme de prise de conscience aujourd'hui d'appartenance à ce qu'est la chrétienté, je voudrais d'abord qu'on essaie de dresser une forme de diagnostic sur ces violences antichrétiennes dans le monde. Est-ce que vous diriez, François Mabille, qu'on assiste véritablement à une augmentation de ces violences ou bien est-ce que c'est davantage une médiatisation plus importante qui fait qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus important que ça ne l'était auparavant ?
Bon, je pense que la première proposition qui est la vôtre est la bonne. Il y a indéniablement une augmentation du nombre de violences à travers le monde qui sont des violences antichrétiennes à la faveur de la radicalisation de certaines parties du monde et de certains groupes musulmans, bien sûr.
Quand on parle de violences antichrétiennes d'ailleurs, est-ce qu'on parle de violences revendiquées comme telles, c'est-à-dire qui visent de manière explicite des chrétiens, ou bien est-ce que, parce que c'est toujours difficile d'évaluer ce genre de choses, ou bien est-ce que parce que des chrétiens sont victimes de certains conflits, on les fait entrer dans les statistiques, disons, des persécutions contre les chrétiens.
Alors, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a effectivement à la fois des violences qui sont antichrétiennes parce qu'elles visent les chrétiens en tant que tels. Et puis ensuite, on entre plutôt dans un débat sur les représentations. Il y a certains groupes qui vont assimiler, par exemple, les occidentaux aux chrétiens, ou plus exactement les chrétiens aux occidentaux. Et donc, la violence contre les chrétiens sera une violence qui visera de manière plus générale des personnes qui sont perçues comme relevant, à tort ou à raison, d'une tradition occidentale.
Jean-Pierre Denis, dans votre magazine La Vie, Henrik Lindell, je ne sais pas d'ailleurs si c'est comme ça qu'il faut prononcer son nom, mais écrivait il y a quelques temps de cela, il parlait de lui d'aggravation et d'extension géographique des violences antichrétiennes.
Oui, c'est très net. Aujourd'hui, les persécutions des chrétiens dans le monde, ce n'est pas seulement sur fond de décomposition du monde musulman et de montée de l'islamisme. C'est de manière plus large sur fond de montée du fanatisme ou de l'extrémisme religieux. Je prendrai des exemples beaucoup moins connus. Moi, j'ai vu de mes propres yeux, au Sri Lanka, pays bouddhiste, des églises incendiées au nom du fait que le christianisme était une religion étrangère. Et on voit aujourd'hui en Inde, avec l'arrivée au pouvoir du parti nationaliste hindou, un retour de violences antichrétiennes, là aussi des églises incendiées, des intimidations diverses. Mais c'est vrai que l'essentiel se joue actuellement dans le monde musulman. Alors, vous évoquiez à l'instant l'assimilation des chrétiens aux occidentaux. En fait, il faut voir que ces violences contre les chrétiens visent en fait l'histoire même, la culture de l'Orient et non pas l'Occident. On désigne les chrétiens de ces régions comme des alliés des occidentaux. En fait, ils sont plutôt les victimes d'un effondrement culturel de cet Orient qui a toujours vécu avec une multiplicité religieuse.
Ce sont peut-être d'ailleurs les occidentaux qui se sentent davantage concernés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient auparavant par ces persécutions.
Ah oui,
même question à Nicole Lemaître, comment l'historienne peut y répondre ?
Oh, je dirais que nous sommes en face de phénomène de refus du pluralisme. C'est vrai que le radicalisme a tendance à devenir beaucoup plus évident aujourd'hui, plus violent, plus actif, plus riche aussi. Et donc, nous sommes en face de persécution non seulement des chrétiens, mais aussi de minorités musulmanes, par exemple. Les chiites ont été massacrés aussi par les sunnites, etc. Donc, voilà, je dirais que ce sont des phénomènes de refus du pluralisme. Et c'est peut-être ça qui est inquiétant.
Ça veut dire que, selon vous, il faudrait faire attention à ne pas distinguer des personnes persécutées en fonction de leur religion. C'est-à-dire, ici, on a des persécutés chrétiens, ici, des musulmans. C'est-à-dire, c'est le même phénomène qui touche diverses confessions.
Voilà, moi je dirais ça à partir des guerres de religion françaises, où on a une culture du refus d'une minorité qui était protestante, avec des massacres du même genre. Et donc, nous savons dans notre mémoire ce qui s'est passé. Or, il semblerait que dans les pays africains en particulier, il n'y a pas du tout cette mémoire. Ou aux États-Unis, parce que les milices chrétiennes qui sont en train de venir combattre les musulmans en Irak aujourd'hui sont aussi dangereuses que les musulmans eux-mêmes.
Alors on ira d'ailleurs dans quelques minutes sur cette question-là d'une possible radicalisation aussi du côté chrétien. Mais je voudrais déjà faire réagir François Mabille et Jean-Pierre Denis à ce que vient de dire Nicole Lemaître. François Mabille.
Oui, je pense qu'il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis, grosso modo, les attentats du 11 septembre et plus encore la guerre des États-Unis contre l'Irak, on assiste dans le Proche-Orient à une décomposition des États. Et la question des minorités, la question du pluralisme se pose sur ce fond historique récent, sur ce fond contemporain, de décomposition des États et donc de décomposition d'un relatif régime de tolérance dans ces États. Alors, parfois, de régime d'intolérance. C'est le cas en Irak, hein, où une minorité, finalement, l'emportait sur une majorité. On voit bien ce qui se passe en Syrie, ou en Libye, ou dans d'autres États. Les règles de savoir-vivre, les règles de coexistence ont disparu. Et on a un retour à la fois de l'histoire, sur fond de vengeance, de règlement de compte, et puis d'absence d'autorité centrale.
Alors on serait davantage face à un problème de minorité religieuse que face à un problème spécifiquement chrétien.
Oui, je pense. Je pense que le premier problème, c'est celui de la construction de l'État, c'est-à-dire d'une autorité légitime, de règles politiques. L'exemple irakien est très intéressant. Finalement, en Irak, qu'est-ce qui se produit ? Se produit simplement que les États-Unis, à partir de 2005, ont projeté sur l'État irakien un système fédéral, je dirais, à l'américaine. Qui ne fonctionne pas parce que ça ne correspond absolument pas aux traditions de ce pays. Donc la destruction de l'État irakien a favorisé bien évidemment un éclatement des règles de savoir-vivre, un éclatement des règles politiques et pose de manière cruciale la question des minorités et de leur coexistence avec des majorités.
Donc Jean-Pierre Denis, les chrétiens, des victimes parmi d'autres du fait du délitement d'un certain nombre d'États.
Ceci est absolument certain. D'autant plus que les chrétiens sont finalement historiquement les tenants de la laïcité en Orient. Ils ont fait le jeu de ce qu'on pourrait appeler le régime le moins pire. On connaît par exemple le soutien des églises en Syrie au régime Assad, tout simplement parce que ils savaient que ce qui pourrait remplacer cette dictature absolument terrible, c'était pire que cette dictature terrible. Et on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, ils ont été à l'origine des mouvements les plus laïcs dans le Proche-Orient. On le voit dans le combat des Palestiniens. Les ultra-laïcs palestiniens étaient très souvent des chrétiens. On le voit en Irak, on l'a vu en Syrie. Et au fond, ils sont emportés parce que ce monde-là aussi disparaît. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a, de la part des mouvements islamistes, et en particulier de Daesh, une stratégie de communication. Et il est évident qu'en s'en prenant aux chrétiens, en la désignant comme telle, il y a un effet attendu en termes d'indignation et de mobilisation et de terrorisme, de façon de terroriser l'opinion publique mondiale en impliquant les chrétiens. Mais il y a quand même une chose qu'il faut bien souligner, c'est que, de toute manière, quelles que soient les distinctions qu'on peut faire, quand on regarde le résultat de cette politique, aujourd'hui, on est arrivé à un point où, pour la première fois depuis 2000 ans, on est sur le point de ne plus avoir de chrétiens en Orient, si ce n'est au Liban, où il reste encore une communauté chrétienne évidemment importante, si ce n'est en Égypte, où les Coptes ont un poids quand même qui reste important, on parle de 8 ou 10% de la population. Mais pour ce qui est de la Syrie, pour ce qui est de l'Irak, on est vers une éradication virtuellement complète du christianisme dans ces pays, comme on l'a vu du reste, on parlait du génocide arménien, comme on l'a vu en Turquie, où aujourd'hui il n'y a pour ainsi dire plus de chrétiens. Donc on peut donner toutes les explications que l'on veut, quand on regarde le résultat pratique, en réalité c'est la disparition du christianisme oriental.
Nicole Lemaître, il y a des projets d'éradication du christianisme dans un certain nombre de pays ?
Ah bien, écoutez, c'est ce qui se passe depuis plusieurs années. Les spécialistes Bernard Héberger, par exemple, du christianisme oriental, l'annoncent depuis une vingtaine d'années.
Oui, justement, ce sont des choses qu'on annonce depuis longtemps, mais auxquelles finalement on ne voulait pas croire. Mais cette fois-ci, c'est vrai.
Est-ce que vous diriez, Nicole Lemaître, quand vous dites cette fois-ci, c'est vrai, est-ce que vous avez l'impression que, quand on dit cette fois-ci, c'est vrai, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui qui existe et qui n'existait pas il y a quelques années? Ou bien est-ce que c'est le fait que ça soit beaucoup plus grave que ça ne l'était il y a quelques années qui fait qu'on s'en rend compte particulièrement aujourd'hui?
J'espère qu'il y a une prise de conscience, ne serait-ce qu'à cause des émigrés. Du côté de Sarcelles, on sait depuis longtemps ce qui se passe. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont des chrétientés anciennes, qui ont 2000 ans d'histoire, qui sont même antérieures au christianisme occidental. Et donc, c'est une perte de culture qui est dramatique pour le Moyen-Orient.
Dramatique pour le Moyen-Orient, dramatique aussi pour l'Occident. Est-ce que on peut parler, François Mabille, d'après vous, d'une prise de conscience nouvelle de ce qui se passe en termes de persécution dont sont victimes les chrétiens, et que cette prise de conscience, si elle existe, elle est liée aussi au fait que peut-être que certains pays occidentaux se sentent, si ce n'est directement, en tout cas indirectement, menacés désormais?
Alors, prise de conscience nouvelle, non, je pense que chez les acteurs chrétiens en tout cas, la prise de conscience, comme le disait Nicole Lemaître, est déjà ancienne. Effectivement, on peut dire que depuis une bonne vingtaine d'années, il y a des mobilisations alors sans doute partielle, sans doute minoritaire.
Qui peine à exister quand même médiatiquement. Hein. Cette émission, je ne sais pas, par exemple, si nous, on l'aurait faite il y a 4-5 ans.
Mais vous voyez, je vais vous donner un exemple auquel on ne pense pas toujours. Andrea Riccardi, qui est la figure bien connue de la communauté de santé de Giglio, a écrit en 2002 un ouvrage collectif sur les martyrs chrétiens. Voilà. Prise de conscience fin des années 80, milieu des années 90, qu'on parle beaucoup de persécution de minorités dans le monde, mais qu'on a tendance à oublier que parmi ces minorités qui sont persécutées, il y a des minorités chrétiennes. Et donc là, vous avez une des toutes premières mobilisations qui donne naissance à un ouvrage et à un certain nombre de manifestations. Alors, le vocabulaire est différent. Vous voyez, le vocabulaire, c'est celui du martyr, hein, donc d'une présence qui va jusqu'au bout du témoignage. Mais ça signifie quand même que vous avez eu des mobilisations. En France, qui a une personnalité comme Marc Stinger, hein, qui est l'évêque de Troyes et président de Pax Christi, se mobilise depuis longtemps, on se rend en Irak, etc., pour attirer également l'attention. Prise de conscience minoritaire, pourquoi ? Si vous prenez le cas de l'Église catholique en France, les Marc Stinger sont minoritaires. Vous avez beaucoup plus de personnes qui se sont mobilisées sur la question du mariage pour tous que sur les questions des chrétiens du Proche-Orient. Donc je pense que là, on assiste sans doute à une mutation à l'interne des milieux chrétiens. En ce qui concerne les milieux politiques et les États, bien évidemment, le positionnement est différent, tout simplement parce que, comme le disait Jean-Pierre Denis, le travail qui est fait par des groupes radicaux, vise à introduire une lecture binaire des conflits. Et donc, si les États occidentaux, européens ou États-Unis, se mobilisent sur la thématique qui est celle de « nous venons au renfort, à l'appui, ou nous venons secourir des minorités chrétiennes », bien évidemment, ça donnera une image au niveau international d'État qui se mobilise sur une base quasi-confessionnelle, ce qui ne serait pas le cas, mais ça risquerait de donner cette interprétation-là, de favoriser cette interprétation.
Jean-Pierre, une remarque là-dessus sur le discours de Laurent Fabius au Conseil de sécurité, qui était un discours d'ailleurs remarquable. La France se souvient tout simplement, mais tardivement, du fait qu'elle est historiquement la protectrice des chrétiens d'Orient. C'est quand même à la France qui est à l'origine de la création d'un pays comme le Liban. Et le Liban a été créé précisément pour les maronites.
Donc, historiquement, d'ailleurs, ça remonte à quoi ? C'est François Ier,
c'est ça ? Enfin, c'est une très longue histoire, mais on peut, sans remonter aussi loin, on peut dire, je prenais l'exemple de la création du Liban. Je vous laisse
remonter plus loin.
On peut. Mais de toute manière, il y a effectivement une responsabilité historique de la France. Cette responsabilité, on l'avait un petit peu perdue de vue. Pour moi, il y a deux changements majeurs. Premier changement, c'est dans le monde chrétien. Dans le monde chrétien, jusqu'à présent, la défense des chrétiens persécutés, c'était pas une cause très populaire. Au fond, quand on regarde l'histoire du XXe siècle, les chrétiens étaient persécutés de l'autre côté du rideau de fer. Et donc, la défense des chrétiens persécutés, c'était plutôt une cause liée à la droite, ou voire à l'extrême droite, dans le monde catholique. C'était sur fond de guerre idéologique. Et encore aujourd'hui, la défense des chrétiens d'Orient, elle est très loin de mobiliser la conscience de l'ensemble des catholiques en France.
Ce que dit Régis Debray, pardonnez-moi, à ce propos, il dit les chrétiens d'Orient, ils sont trop chrétiens pour la gauche, ils sont trop étrangers pour la droite.
Alors voilà, c'est le deuxième changement. C'est-à-dire que là, on assistait quand même ces derniers jours, ces dernières semaines, à une vraie prise de conscience, à un vrai réveil. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les chrétiens d'Orient persécutés, ils avaient un tort, c'est qu'ils étaient chrétiens. Et donc, on était un petit peu gênés de défendre ces chrétiens, peut-être parce qu'on était un petit peu gênés dans notre propre rapport au christianisme. Quand je dis « on », c'est la société française, les sociétés sécularisées, qui ont un rapport complexe à l'histoire du christianisme, qui ont un rapport de culpabilité aussi par rapport, on a parlé des guerres de religion et à ce passé, et qui donc n'ont pas envie de se mobiliser pour des chrétiens. Ce qui a changé, c'est qu'on a accepté de considérer que c'était des êtres humains comme les autres et qu'ils étaient persécutés en tant qu'êtres humains. Moi, je pense toujours à la protestation de Mgr Saliège en 1942 contre la déportation des Juifs. Mgr Saliège n'a pas dit « il faut se mobiliser pour défendre les Juifs ». Il a dit « ce sont des hommes, des femmes et des enfants ». Donc, il y a une prise de conscience du fait que ce sont des êtres humains aujourd'hui menacés et très fortement persécutés.
Nicole Lemaître.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je placerais volontiers l'intérêt pour les chrétiens d'Orient à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Je constate que les Arméniens, la Première Guerre mondiale, n'ont pas été défendus du tout, alors que les quelques massacres qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale de chrétiens ont provoquer des réactions. Et c'est vrai que le pluralisme religieux vécu dans les camps de concentration, dans ces passages des guerres mondiales, des soldats de part et d'autre, a sans doute joué un grand rôle. Et d'ailleurs, une bonne partie de la classe politique qui a fait l'ONU, qui a fait l'Europe, etc., Schuman, De Gaulle, Michelet, toute cette classe politique chrétienne a pensé qu'on pouvait créer un humanisme mondial en discutant avec les musulmans et les juifs et bien entendu et les bouddhistes.
François Mali. Oui, il y a historiquement, en tout cas au XXe siècle, plusieurs phases dans la mobilisation des États à propos des minorités, notamment des minorités chrétiennes. Alors on l'a rappelé, il y a eu bien évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, les mobilisations en faveur de ce qu'on appelait à l'époque l'Église du silence, bien sûr, et là on visait directement l'URSS et ses États satellites. Entre cette mobilisation et celle que l'on connaît actuellement, il ne faut pas oublier que la toute dernière, mais qui n'a pas été reçue en Europe et en tout cas certainement pas par la France, c'est celle des États-Unis, fin des années 90. Vous avez le vote de ce qu'on appelle l'IRF Act en 1998, l'International Freedom Religious Act. Qu'est-ce que c'est ? C'est le Congrès américain qui vote une loi incluant la défense des minorités et spécifiquement des minorités chrétiennes dans la politique étrangère américaine. Sur la base du constat suivant, les États-Unis aident un certain nombre d'États dans le monde. Il se trouve qu'un certain nombre des États qui sont les bénéficiaires de cette aide sont des États qui sont persécuteurs de minorités chrétiennes. Et la droite religieuse américaine se mobilise à ce moment-là en disant « Regardez ce qui se passe au Soudan, regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite, regardez ce qui se passe au Pakistan. Il ne fait pas bon être chrétien dans ces pays-là, alors même que ce sont des partenaires des États-Unis. » Cette mobilisation est très forte. Elle a été reconduite, hein, cette loi a été reconduite, y compris par Obama récemment, il y a maintenant un an et demi.
Et ça veut dire, François Mabil, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui encore la diplomatie américaine de diplomatie chrétienne ?
Non, pas diplomatie chrétienne, mais une diplomatie qui, depuis la fin des années 90, donc vous voyez, avant même les attentats du 11 septembre, considère que l'un, alors c'est typiquement américain, que l'un des critères de la protection des droits de l'homme, c'est la protection ou le respect de la liberté religieuse.
Alors, c'est paradoxal. Hein.
C'est tout à fait paradoxal
parce que le résultat de cette politique, c'est précisément le contraire.
Bien sûr.
Et donc, c'est ça qui est quand même assez frappant. C'est-à-dire que on voit que la décomposition de l'Irak. C'est la décomposition de l'Irak, c'est l'intervention de Bush qui en est l'élément déclencheur. Et c'est cette décomposition de l'Irak qui en arrive à la disparition du christianisme. Donc la politique, la responsabilité de la politique étrangère américaine dans cette situation est très forte. Et j'ajouterai que la responsabilité française existe aussi. Moi, je suis très heureux quand j'entends Laurent Fabius qui fait, je disais, ce discours très important et très beau d'ailleurs à la tribune des Nations Unies pour les chrétiens d'Orient. Mais c'est le même Laurent Fabius qui nous expliquait au début de la crise syrienne que les jours du régime Assad étaient comptés. Et c'est la même France qui pensait qu'il fallait faire des frappes punitives. Vous vous souvenez, après l'usage des armes chimiques contre des frappes punitives contre Assad.
Est-ce que vouloir dire, Jean-Pierre Denis, d'après vous, qu'il y a aussi une forme d'instrumentalisation de l'essentialisation de la chrétienté d'un point de vue géopolitique, c'est-à-dire on s'en sert aussi pour faire passer un discours qui est avant tout un discours politique.
Moi je dirais qu'il y a surtout une mauvaise compréhension de la géopolitique de ces pays. Moi, j'ai souvent entendu des responsables politiques me dire « Oui, bon, mais ça, c'est les chrétiens d'Orient. » On a tendance à considérer qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Or, ils sont les mieux placés pour nous avertir des dangers d'une politique qui souvent ne résonne qu'à un ou deux coups et qui ne sait pas voir plus loin. Donc je crois que la stratégie, l'absence de stratégie justement de la diplomatie américaine, c'est-à-dire on n'a pas raisonné à plusieurs coups, amène aujourd'hui à cette situation. Et il y a une très lourde responsabilité de la politique occidentale américaine d'abord, mais la France ne peut pas s'en exonérer, dans la disparition des chrétiens d'Orient aujourd'hui.
Sur cette question de l'instrumentalisation, Nicole Lemaître.
Oui, bien sûr, c'est une vieille histoire que d'instrumentaliser la religion pour des intérêts politiques, mais aussi économiques. Les Américains, ceci étant, ont mis le droit à la religion dans leur constitution. Donc, effectivement, ils étaient portés à faire ça. Mais ils ont été d'une naïveté extraordinaire.
Oui,
et
enfin...
nous aussi, d'ailleurs.
Enfin, c'est d'une, la naïveté, peut-être, ou à moins que ce soit la forme supérieure d'un cynisme qui fait que finalement, les chrétiens n'étaient qu'un détail dans l'addition qu'il fallait régler.
François Mailly. Ou plus généralement, toute ambiguïté d'une politique qui veut défendre les droits de l'homme. Comment défend-on les droits de l'homme? Comment défend-on les libertés? Comment défend-on les minorités? Et à partir de quel moment une politique internationale devient une véritable politique d'ingérence? On pourrait raisonner également par comparaison et se dire qu'est-ce qu'on fait pour le Dalai Lama et pour les Tibétains, par exemple.
Oui, mais on peut dire que le Dalai Lama et les Tibétains, c'est une cause qui a toujours mobilisé, par exemple, les intellectuels français. Il n'y a pas, de très loin, la même mobilisation pour les chrétiens d'Orient aujourd'hui.
On en est encore. Politique française très particulière.
Voilà, on en est encore très loin.
Alors sur la façon justement d'assumer ou pas une appartenance à une communauté historique chrétienne, je voudrais vous faire écouter un extrait d'un discours politique qui date de janvier 2008 lors d'une convention sur l'Europe. À l'époque, c'est Nicolas Sarkozy qui est président de la République française. Il évoque justement ce qu'il considère lui comme un rendez-vous raté, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir pu faire inscrire dans la Constitution européenne, dont on va célébrer bientôt les 10 ans du référendum, de ne pas avoir pu faire inscrire dans cette Constitution la question des racines chrétiennes de l'Europe.
En juillet, Paris prendra la tête de l'Union, ratification du nouveau mini-traité en poche. Immigration, sécurité, environnement, Nicolas Sarkozy a décliné ses ambitions, regrettant au passage que l'Europe ait renoncé à la mention de ses racines chrétiennes dans le premier projet de constitution européenne.
Qu'on ne vienne pas nous dire qu'on met en cause la laïcité. Il suffit de survoler la France pour voir ce long manteau d'église et quand même dire... Quand en Europe, il y a des racines chrétiennes, c'est simplement faire preuve de bon sens, refuser de le reconnaître, c'est tourner le dos à la réalité historique.
Jean-Pierre Denis, ça serait plus facile à faire accepter un tel discours aujourd'hui, étant donné cette prise de conscience dont on parle depuis le début de l'émission?
Non mais je souriais en écoutant cet extrait parce que c'était une pierre dans le jardin de Jacques Chirac. Il faut quand même se souvenir que c'est Jacques Chirac qui s'est opposé à ce que les racines chrétiennes soient inscrites dans la Constitution européenne. Moi, j'ai toujours trouvé ce débat assez étrange parce que, de fait, Nicolas Sarkozy a raison. Les racines chrétiennes de l'Europe, c'est une évidence parmi d'autres racines, mais on ne peut pas nier l'apport du christianisme à la culture européenne. Le problème, c'est que ce débat dans la culture française, il est immédiatement piégé. Et moi, j'observerai d'ailleurs qu'il n'y a pas tellement de demandes de la part des catholiques. Finalement, au fond, la demande des catholiques de prendre en compte de cette façon cet héritage n'est pas très forte. Et au fond, je pense qu'il n'y a
comment
pas...
Comment est-ce que vous l'expliquez? Parce que les catholiques se sentent suffisamment puissants pour ne pas avoir besoin
de l'affirmer. Non, je dirais qu'au fond, il n'y a pas de communauté chrétienne. Et c'est ce qui me paraît d'ailleurs, c'est ce qui m'a le plus turlupiné, je dirais, quand vous nous avez parlé de cette émission, c'est que je pense qu'il n'y a pas de communauté chrétienne. Il n'y a d'ailleurs la preuve, c'est que on a fait une récente étude à la vie au moment de Pâques pour savoir combien il y avait de baptisés en France, et peut-être que contrairement à ce qu'on imagine, on ne sait pas, mais il y a une majorité de la population française qui est baptisée, de l'ordre de 68 ou 70% d'après notre étude. Donc la France reste, de point de vue rituel, un pays qui est un pays majoritairement catholique. Pour autant, il n'y a pas un lobby chrétien, il n'y a pas un mouvement chrétien, il n'y a pas une communauté chrétienne, il n'y a d'ailleurs pas, on pourrait pas dire parler de vote catholique, même si les catholiques votent plutôt à droite. Donc il n'y a pas, de la part des chrétiens, un sentiment d'appartenir à une communauté, et il y a même une certaine gêne, je dirais, chez les chrétiens, on y a fait allusion, à défendre spécifiquement les chrétiens. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire de la charité, donc les grands mouvements caritatifs chrétiens, quand on regarde l'histoire du mouvement éducatif aussi, ces établissements scolaires, ces ONG n'ont jamais été créés à destination spécifique du public chrétien. On comprend qu'un organisme comme le Secours catholique est un des principaux organismes de collecte d'aide aujourd'hui en France. C'est un organisme qui distribue sans discrimination de religion ou d'absence de religion. Donc il y a dans le christianisme contemporain pas vraiment de sentiment d'appartenir à une communauté, si ce n'est peut-être, dans certains milieux qui sont dans une logique plus identitaire, qui se réveille pour le coup aujourd'hui.
François Mabille, vous êtes d'accord avec ça, il n'y a pas de communauté chrétienne, en tout cas de sentiment d'appartenance à une communauté chrétienne en France et a fortiori dans le monde ?
Alors oui, actuellement tout à fait. Je serais peut-être plus réservé sur le passé. Je pense qu'il y a eu une évolution considérable depuis les années 1950 jusqu'à nos jours, y compris pour des mouvements comme le Secours catholique. En revanche, sur la période contemporaine, oui, vous avez tout à fait raison. La question que vous posez d'ailleurs est intéressante parce que quand on parle de conscience chrétienne, ça suppose d'abord que catholiques, protestants, orthodoxes puissent avoir, ressentir la même identité. Et puis vous posez une question qui est tout
donc
à fait...
Donc ça voudrait dire quoi ? Il y aurait davantage une communauté catholique comme une communauté orthodoxe, mais pas une communauté qui fédère l'ensemble.
Vous voyez que historiquement, vous êtes en face de mouvements différents. Un mouvement qui est de séparation avec donc le schisme orthodoxe, puis avec la réforme contre réforme. Bon, et puis je dirais un mouvement de fragmentation de ces trois grandes traditions. Et puis fin du 19e, début 20e siècle, un autre mouvement, un contre-mouvement qui tend plutôt vers l'unité. C'est le mouvement œcuménique avec toutes ses difficultés, la création en 1948 du Conseil œcuménique des Églises. Bien. Est-ce qu'il y a une conscience chrétienne identique entre ces différents groupes ? Je n'en suis pas certain, mais à cela s'ajoute une autre question qui est celle de la coexistence des identités au sein des individus. Un catholique français est-il d'abord français ou catholique ? Réagit-il en français ou en catholique ? On a une étude, d'ailleurs on a plusieurs études, mais une notamment d'un think tank américain, le Pew Forum, qui est très intéressant, qui a posé la question « Est-ce que la religion est importante pour vous ?» Et on voit très bien les différences, puisqu'en France, plus de 70% des Français répondent « Non, la religion n'est pas importante ». Pour nous, alors même, comme vous le disiez un instant, que plus de 60% d'entre eux sont baptisés. En revanche, vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est 82% des Ivoiriens vous disent « la religion est importante pour nous ». Les États-Unis, alors paradoxalement, hein, mais c'est la singularité nord-américaine, 70% des nord-américains disent « la religion est importante pour nous ». Les pays scandinaves, 85% d'entre eux disent « ça n'est pas important ». Donc vous voyez que parler de conscience chrétienne, c'est un petit peu, c'est très complexe comme notion, et il faut ensuite creuser et travailler sur cette articulation des identités.
Nicole Lemaître, Jean-Pierre Denis et François Mabille nous disent donc, en gros, aujourd'hui, il n'y a pas de communauté chrétienne, en tout cas revendiquée et consciente d'elle-même. Y en a-t-il jamais eu dans l'histoire ?
Bien sûr qu'il n'y en a jamais eu véritablement. De temps en temps, au moment de la contre-réforme, quelqu'un comme Bérulle, excluant les protestants parce qu'ils ne participaient pas à l'Eucharistie, on trouve des phénomènes de genre. Mais profondément, le christianisme n'est pas d'abord une communauté.
Et les croisades, alors les croisades, ça n'était pas justement l'expression de cette appartenance-là ?
Ça n'a jamais marché. Puisqu'on n'a pas réussi à reconquérir les lieux saints, on aurait dû.
Ça n'a pas marché parce que justement cette communauté n'existait pas vraiment ?
Mais exactement. Moi, je crois que le christianisme a toujours fonctionné sous forme de réseau et non pas sous forme de communauté. Ce qui est quand même très différent, c'est-à-dire que chaque nœud du réseau s'organise à sa façon pour vivre avec le Christ. Et il y a ce côté d'incarnation qui est très différent des autres religions et qui fait quand même une certaine unité, du moins pas une unité, mais une façon commune de comprendre les choses.
Vous évoquiez tout à l'heure, Nicole Lemaître, la radicalisation possible. Est-ce que certaines de ces communautés, donc qui se sentent appartenir d'une manière ou d'une autre à la chrétienté, pourraient, selon vous, être tentées de réagir, peut-être d'ailleurs de la même manière que certains musulmans ou jeunes convertis, c'est-à-dire d'aller combattre pour défendre leurs frères de religion. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'imaginable, d'après vous ?
C'est malheureusement possible aux États-Unis. Et donc, moi, je trouve que c'est un danger parce que c'est anti-chrétien au possible.
Jean-Pierre Denis a l'air...
Jamais les orthodoxes non.
Ouais, enfin,
Jean-Pierre Denis. Ils sont allés vers ça.
Jusqu'à présent, moi, j'ai pas vu de phénomène comme ça. Alors, on peut toujours l'imaginer en théorie, mais j'ai pas vu de phénomène comme ça. Ce qu'on voit actuellement, c'est une tentative dans certaines communautés chrétiennes acculées, finalement, alors que ça n'a jamais été le cas, une tentative d'organiser des milices pour se protéger, dans le contexte du chaos en Irak et en Syrie. Ça a été le cas au Liban dans le cadre de la guerre civile au Liban et d'ailleurs avec un éclatement des chrétiens, et aujourd'hui encore la communauté chrétienne au Liban est très divisée. Elle a toujours été divisée sur l'alliance avec la Syrie ou sur le refus de cette alliance. Donc on voit que ça n'a jamais marché. D'ailleurs, ce qui finalement réunit, pour parler des catholiques qui sont plus d'un milliard, sur 1,2 milliard dans le monde, ce qui les réunit, ce n'est certainement pas une conscience politique, à la limite c'est un rituel. Et de fait, quand on va, quel que soit le pays dans lequel on va, le rituel catholique est universel, il est immuable. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir une forme d'intelligence, même si vous ne pratiquez pas la langue, que vous alliez en Argentine, en Chine, au Japon ou dans n'importe quel pays, vous allez rentrer dans ce rituel parce que vous allez vous y retrouver. Ça, c'est un élément commun. Il y a effectivement une logique de réseau, mais il y a plutôt plusieurs réseaux. Il y a toujours eu plusieurs réseaux. Et en gros, ça s'arrête là. Alors l'autre élément qui peut être un élément fédérateur, mais ça ne fait pas une communauté, c'est le rapport à la papauté. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, et la mondialisation a accentué ça, et la médiatisation a accentué ça, on voit autour du pape François à quel point il y a l'émergence d'une figure qui, elle, est une figure universelle. Mais la figure universelle du pape, avec son autorité, sa popularité mesurée dans tous les pays, et qui est toujours à des niveaux très élevés, de l'ordre de 80 ou 90%, ça ne fait pas encore tout à fait la communauté. Au fond, entre le pape et la paroisse, il n'y a pas grand-chose dans l'Église catholique.
François Mabille. Oui, je crois que Jean-Pierre Denis a tout à fait raison. Ce qui fait... Alors, la question d'une conscience chrétienne pose une autre question qui est un classique chez les chrétiens, qui est celle de leur identité. Effectivement, quelle est l'identité chrétienne? Est-ce qu'il y en a une qui est commune? Effectivement, le rituel qui est commun arrive en première réponse, avec sans doute, par-delà la diversité des spiritualités, tout de même un fond commun au niveau spirituel. En revanche, à partir de là, bien sûr, il y a de très très profondes différences, divisions politiques. Alors, on peut trouver des groupes chrétiens qui sont, je dirais, des bat-en-guerre. La question qui se pose encore est de savoir s'ils mettent leur appartenance politique avant ou après leur appartenance religieuse, et je pense notamment à la droite religieuse américaine. J'ajouterais ce que disait Jean-Pierre Denis, qu'il y a également, depuis le 19e siècle, un travail interne aux chrétiens, quelles que soient les confessions, autour de cette question de la légitimité du recours à la violence. Alors, on voit très bien que, si vous prenez l'exemple des catholiques, les catholiques sont plutôt des va-t-en-guerre pendant la Première Guerre mondiale, et puis vous avez une évolution considérable qui se lie d'ailleurs jusqu'aux hésitations récentes du pape, entre l'été dernier et puis maintenant. On voit bien que le fait même de dire que la légitime défense armée, conformément d'ailleurs à la Charte des Nations Unies, est autorisée, c'est prononcé du bout des lèvres. Et puis vous avez beaucoup de groupes chrétiens, je pense aux Quakers, je pense aux Scandinaves, etc., qui de longue date sont pour la non-violence. Donc je ne pense pas qu'on puisse arriver à une radicalisation religieuse qui aille jusqu'à défendre ou promouvoir une réponse par la violence. Cela étant, bien évidemment, comme vous le disiez, sur place, il y a un certain nombre de groupes qui sont directement menacés dans leur identité et qui, faute d'une aide internationale, sont bien évidemment obligés de se poser la question des conditions de leur survie.
Donc en tout cas, une coalition internationale qui se montrait au nom ou autour de la chrétienté, c'est quelque chose qui n'est pas du tout...
Qui est hautement improbable.
Jean-Pierre Denis.
Qui est hautement improbable.
Hautement, oui.
Et qui supposerait d'ailleurs qu'il y ait des puissances chrétiennes au niveau étatique en Occident, ce qui, à ma connaissance, n'est plus le cas depuis bien longtemps. Et je pense que personne ne milite vraiment pour un retour à cette situation. L'autre différence aussi, je dirais, qui empêche qu'il y ait vraiment des communautés chrétiennes, c'est que les différences culturelles entre les chrétiens occidentaux, américains, européens et les chrétiens des pays du Sud sont aujourd'hui des phénomènes très forts. Les chrétiens africains considère que le christianisme européen s'est complètement dissous dans la sécularisation des sociétés occidentales. Et ils ont un regard extrêmement critique vis-à-vis de l'évolution du christianisme occidental. Donc on voit bien que là aussi, les chrétiens de toute la planète ne sont pas sur la même longueur d'onde. Sur là, je parle évidemment des questions de société.
Un mot
de
conclusion, Nicole Lemaître.
Oh, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut surtout ne pas penser qu'on peut réagir violemment pour défendre les chrétiens d'Orient. En revanche, être conscient qu'il y a une unité des chrétiens, moi je rêve d'une période où on ferait comme les chrétiens d'Orient actuels, c'est-à-dire qu'on aurait une date de Pâques unique, calée sur celle des orthodoxes éventuellement.
Voilà, bah, ce serait voilà, déjà peut-être une forme de, comment dire, de rassemblement, c'est ce que vous voulez dire, ou d'homogénéisation peut-être de cette communauté. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. François Mabille, Nicole Lemaître, Jean-Pierre Denis. Merci à nos collègues de France Bleu à Nice qui ont permis ce duplex. Demain, tout est-il permis en temps de guerre? C'est la question que nous poserons. Une émission que nous avons enregistrée il y a quelques jours au lycée Jacques Decour à Paris. C'était dans le cadre de la semaine de la presse à l'école.